Heureux d'être avec vous ce soir pour ce temps de partage. Benoît XVI nous rappelle que si nous rentrons dans le carême, c'est parce que nous voulons suivre le Christ. L'évangile était celle du Christ qui, après son baptême, poussé par l'Esprit Saint, était allé au désert mener un combat. Un combat contre Satan, contre le péché, une victoire qu'il a remportée pour nous, pour que nous puissions la posséder, nous l'approprier, cette victoire. Et Benoît XVI disait que quand nous partions au désert avec le Christ, c'était aussi pour rentrer dans ce grand combat dans lequel le Christ était rentré, mais avec une certitude inébranlable, celle que le Christ avait remporté la victoire et que par sa grâce, eh bien, nous pouvions goûter aujourd'hui cette victoire. Et qu'en fait, ce combat particulier du carême n'était pas réservé à un temps spécifique de l'année liturgique, mais c'était un combat de tous les jours de la vie chrétienne, mais que dans sa providence, dans sa délicatesse, Dieu et l'Église nous donnaient ce temps de carême pour s'entraîner un petit peu plus sérieusement à ce combat, de façon à le mener plus facilement le reste de l'année liturgique ou de l'année civile. Les pères du désert disaient qu'il n'y a que deux types de personnes qui peuvent vivre dans le désert, ce sont les saints et les bêtes sauvages. Alors il y a en nous un petit peu du saint et un petit peu de la bête sauvage dans nos cœurs. Père Pinkhart disait « Il y a en nous le lion de la domination et de l'orgueil, le coq et le paon de la vanité, le chat de la flatterie, le renard de la fourberie, le serpent de l'envie, l'ours de la possessivité, la pie de la jactance, le singe de la moquerie, le rhinocéros de la brutalité, le pachyderme insensible, le lièvre peureux, le porc étalé dans son plaisir, le chien colérique, les mouches bourdonnantes des soucis et le ver rongeur de l'inquiétude. » Il y a une petite ménagerie en nous qui permet de voir un petit peu que avec la partie en nous sanctifiée déjà, touchée par la grâce, transfigurée par la grâce, eh bien, cette partie-là est assaillie par ces bêtes sauvages. Et alors, saint Antoine, le père des moines du désert, a vu un jour un gros lion venir vers lui. Il pouvait compter les côtes à 20 mètres du lion, donc assez affamé, se jette à genoux puis dit « Écoute, si t'as reçu l'ordre ou l'autorisation de me manger, vas-y tout de suite. Si t'as pas l'autorisation de manger, pars, c'est inutile d'insister. » Et le lion est reparti comme ça. Alors ces bêtes sauvages qui sont en nous, toute cette faune intérieure, le Seigneur nous protège et si nous restons unis en lui, eh bien c'est évident qu'elles ne pourront pas nous assaillir. Ces bêtes vont être domptées aussi dans ce combat spirituel. Seulement, il y a des armes spirituelles à prendre pour réussir à mener ce combat spirituel, ou plutôt laisser le Christ triompher en nous dans ce combat spirituel, puisque la victoire lui appartiendra toujours. Ce ne sont pas nos forces ou nos efforts qui vont permettre la victoire, c'est le Christ qui est l'unique vainqueur. Et même si nous faisons des efforts, et même si nous persévérons, participons nous aussi par notre ascèse à ce combat spirituel, eh bien nous ne mettons pas notre foi dans nos efforts et dans notre ascèse, mais dans le Christ qui produit en nous le vouloir et le faire, qui produit la grâce et qui opère le miracle de notre conversion. J'aimerais voir un petit peu à partir des pères du désert aussi, juste quelles vont être quelques étapes à travers quelques mots clés de ce combat spirituel, de ce changement qui doit s'opérer en nous, de cette conversion qui doit se réaliser dans nos cœurs à travers toute la vie chrétienne jusqu'au moment où on verra Dieu face à face, puisque c'est quand même ça l'objectif, hein. C'est le voir un jour face à face, le rencontrer les yeux dans les yeux. Je crois qu'on oublie parfois un petit peu cette perspective de la vie éternelle, hein. C'est peut-être ça qui rend les combats très lourds et qui rend la vie très pénible, c'est de perdre le sens de la vie éternelle, de perdre le sens de ce qui est la finalité de notre vie. C'est un jour voir Dieu face à face. Ça arrivera à tous un jour ou l'autre, on ne sait pas très bien quand, il ne faut pas se poser la question, mais un jour ou l'autre, on va vivre dans cette rencontre avec le Seigneur. Alors, le premier élément qui va être au cœur même de la vie chrétienne en général, ça va être la conversion. Nous entendions le premier jour du carême, le mercredi des cendres, alors qu'on nous imposait les cendres, il y avait deux paroles que la liturgie de l'Église nous donne. « Souviens-toi que tu es poussière » et que tu retourneras en poussière, ça c'est la première parole que l'Église nous donne. Souviens-toi que sans le souffle de Dieu, tu n'es que poussière, et que si tu n'es pas habité par ce souffle de Dieu, tu pars en poussière. L'homme est fait de poussière et de souffle, et sans le souffle qui lui vient d'ailleurs, eh bien il n'est que poussière et retourne en poussière. Et que si l'homme ne vit pas de ce souffle de Dieu, si l'homme ne vit pas de la ruach, la puissance de l'Esprit Saint en nous, on n'est que poussière, on est disloqué. On n'est plus unifié, mais disloqué. Et puis la deuxième parole que nous donnait la liturgie du carême, c'était « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Alors j'aimerais m'arrêter un petit instant sur cette idée de conversion. Dans la tradition de l'Église, il y avait deux mots pour exprimer la conversion. En grec, un mot qui signifiait plutôt « revenir en arrière », « changer de route », « reprendre le bon chemin ». Et puis un mot, je vais vous le dire en grec celui-ci, parce qu'il est important et qu'on va le retenir. La métanoïa, ça veut dire le changement radical de la manière de penser. Saint Paul nous dira à un moment donné, renouvelez en vous votre manière de penser pour voir ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui plaît à Dieu. Le nous, la noia, c'est l'intelligence, c'est l'esprit, et méta, c'est le retournement de l'esprit. La conversion n'est pas seulement un retour en arrière pour prendre un chemin, la conversion est un radical changement de notre manière de penser, de notre manière de voir les choses à la manière de Dieu, pour penser les choses à la manière de Dieu, pour vivre les choses à la manière de Dieu. La conversion dans l'Ancien Testament, c'était de revenir en arrière, faire demi-tour, revenir sur ses pas parce qu'on s'était égaré de route. Dans le Nouveau Testament, depuis le Christ, la conversion n'est plus un retour en arrière, c'est une prise de conscience de quelqu'un qui est là avec nous. C'est extraordinaire, il n'y a pas besoin de revenir, il suffit pour se convertir de dire « mais tiens, le Christ est là, Jésus est là, il est avec nous ». Et du coup, se convertir, c'est croire à la présence réelle du Christ avec moi dans la vie. Le père Cantalamessa, qui est le prédicateur du Saint-Père, disait dans un sermon sur la conversion, juste « convertissez-vous », c'est-à-dire « croyez ». Convertissez-vous en croyant. La foi est la porte par laquelle on entre dans le royaume. Si on nous avait dit « la porte, c'est l'innocence. La porte, c'est l'observation rigoureuse de tous les commandements. La porte, c'est la patience, la pureté. » On pourrait dire « alors, c'est pas pour moi. Je ne suis pas innocent, je n'ai pas telle ou telle autre vertu. » Mais il nous est dit « la porte, c'est la foi ». Toute personne peut croire, car Dieu nous a créés libres et intelligents, précisément pour nous permettre d'accomplir l'acte de foi en lui. La foi est une foi consentement, est une foi confiance, et aussi une foi appropriation. Et la conversion, c'est ramasser en quelque sorte ce trésor de la grâce de Dieu qui nous est donné. Saint Bernard disait, « Moi, ce qui me manque, je le vole du côté du Christ. Je l'usurpe du côté du Christ. » Tous les trésors du Christ nous sont donnés et on peut se les approprier grâce à cette présence du Christ. Alors dès qu'on se rend compte qu'il y a une présence du Christ, que cette métanoïa, cette conversion, cette manière de penser est celle-là même du Christ, celle-là même de l'Évangile, je crois que c'est ce qui manque le plus peut-être aux chrétiens. Les pères de l'Église disaient « apprenons à vivre le christianisme ». Tertullien qui avait dit ça, « apprenons à vivre le christianisme ». Et Paul VI disait, mais posons-nous la question si nos manières de penser, nos manières de voir, nos manières d'agir ne sont pas fortement influencées, voire complètement déterminées par l'esprit du monde. Mais si vraiment nous avons cette radicale nouveauté de penser, d'agir, de voir les choses qui sont celles-là même du Christ et de l'Évangile, de cette bonne nouvelle, du salut, de cette victoire, de l'amour sur la mort, de cette victoire de la vie sur la mort et sur le péché, sur Satan, de cette force d'amour qui triomphe même du tombeau. Cette conversion, cette métanoïa, cette nouvelle manière de penser est au centre même de la vie du croyant. Il y a une stupeur, vous lisez ce texte bouleversant de Pascal qui a vécu cette expérience d'une métanoïa, d'une prise de conscience de la présence du Christ et d'un renversement de sa manière de penser. C'était un petit papier qu'il portait toujours dans la doublure de sa veste. On l'a découvert à sa mort, il avait décousu la doublure de sa veste et il avait cousu ce petit papier qu'on appelle le mémorial de Pascal. Il avait écrit de sa main, je vous le lis, « L'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr, et autres martyrologes, veille de Saint Chrysogone, martyr et autres, depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi, feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ, ton Dieu et mon Dieu. » Oubli du monde et de tout, hormis Dieu, il ne se trouve que par les voies enseignées dans le Saint-Évangile. Grandeur de l'âme humaine, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie. Je m'en suis séparé. Mon Dieu, me quitterez-vous, que je n'en sois pas séparé éternellement. Car là est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu envoyais, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié, que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile, renonciation totale et douce, soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur, éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Nous n'oublierons pas tes paroles. Amen. L'expérience de Dieu, double mouvement, la joie qui éclate du cœur parce que le Christ est avec moi, parce que l'Emmanuel est présent, et le renouvellement de la pensée. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, non pas des philosophes et des savants, non pas du monde, mais du Saint-Évangile, ce renversement total, Jésus-Christ crucifié, soumission totale au Christ, et non pas à l'esprit du monde. Alors cette expérience que Pascal a faite, il était déjà croyant à l'époque, hein, c'était pas un païen renégat, c'était un personnage qui était dans la bonne tradition, catho, machin, voilà. Et tout d'un coup, il y a cette stupeur qui se passe. Il y a un changement qui s'opère. Cette métanoïa, elle est perpétuelle, elle est toujours à faire. On n'a jamais fini sur ce chemin d'infini de se laisser surprendre, de se laisser transfigurer. Et la tragédie, ce serait justement l'habitude. L'habitude est la pire des choses dans ce chemin de foi, c'est la destruction même de cette conversion à laquelle nous sommes appelés. Les pères de l'Église ont beaucoup parlé de cette conversion. Ils disaient, il s'agit moins de se retourner que d'être retourné. C'est nous la crêpe. Et le bon Dieu nous fait sauter comme une crêpe, paf, il fait tourner de l'autre côté. Il y a un renversement qui s'opère par la grâce de Dieu. C'est frappant de voir que chez saint Paul, par exemple, le mot se trouve pas souvent, une autre fois ou l'autre, parce qu'il s'adresse déjà la plupart du temps à des gens qui ont déjà vécu cette expérience de la métanoïa, de la conversion, et qu'il s'agit maintenant d'encourager dans ce chemin de persévérance. Mais pour nous, on peut le dire que sans cesse, cette métanoïa est à vivre. La tragédie par rapport à la métanoïa, c'est le refus de changer. C'est cette crispation sur nos idées, cette crispation sur notre manière de voir les choses qui finalement empêche ce renversement de l'intelligence, renversement du cœur, renversement de la personne. Un père de l'Église disait « À force de me repentir sans me corriger, je resterai et mourrai finalement dans mes péchés. » Voilà. C'est-à-dire que la métanoïa implique aussi une action, non seulement un mouvement du Seigneur qui va nous retourner, mais implique véritablement une décision d'adhérer à cette vie nouvelle. Un peu comme saint Augustin quand il s'est converti et qui disait « c'est pas demain que je vais commencer, c'est aujourd'hui que je vais commencer à vivre de cette vie nouvelle. C'est aujourd'hui que je vais prendre la décision de marcher selon les pas du Christ. » Alors un autre père de désert disait « la conversion, c'est un passage d'une existence banale à une existence nouvelle venue grâce à l'intervention de Dieu, à partir d'une situation qui apparaît désormais comme ancienne. Une conversion apparaît donc comme l'expérience de la découverte d'une possibilité de faire échec à l'ancien et donc à la mort par la perception de réalité insoupçonnée, par la transformation de notre façon de voir le monde. » Et c'est intéressant de voir que le contraire de métanoïa, c'est paranoïa. Paranoïa, ça vous dit peut-être quelque chose, la paranoïa? La paranoïa, les psychiatres le disent, je cite un dictionnaire médical, s'installe vers les 35-45 ans chez un sujet. La personne paranoïaque a un trouble de personnalité répandu, plus fréquemment chez l'homme, et notamment dans les couches sociales favorisées. Quelles vont être les caractéristiques de la paranoïa? La surestimation de soi, l'orgueil anormalement développé, une grande difficulté à remettre en cause ses jugements ou son raisonnement, l'absence d'autocritique, autoritarisme, grande susceptibilité, associée à une méfiance avec parfois agressivité. Tiens, c'est frappant, hein? Juste le contraire de la métanoïa. C'est-à-dire que la pathologie de la paranoïa est véritablement le contraire de cette conversion. Et comme par hasard, ça arrive à un moment de l'âge mûr, là où on est sorti de l'adolescence. C'est-à-dire en 35-45 ans, on devrait normalement sortir un petit peu de l'adolescence. C'est le moment en tout cas, même si Tony Latrella dit qu'on trouve à 80 ans des gens qui sont encore adolescents, c'est-à-dire qui continuent à vivre sous le regard des autres et non sous le regard du Christ, ou un regard de vérité en tout cas en eux-mêmes. Et que cette pathologie, les psychiatres eux-mêmes le disent, c'est très frappant parce que elle apparaît à des moments différents de l'histoire. Dans certaines périodes de l'histoire, on n'en parle pas du tout. Il n'y a aucune paranoïa ou quelques cas isolés par-ci par-là. Et à un moment donné, c'est une sorte de pathologie généralement répandue. On ne sait pas très bien comment cela se produit, mais ce serait intéressant d'analyser peut-être la relation entre la paranoïa et l'état spirituel d'une société. Les pères du désert, donc au 3e, 4e siècle, dans le désert, opposaient métanoïa à paranoïa. Et voyez-vous, c'est deux attitudes complètement différentes. Ou c'est moi, dans mon orgueil, à 35-45 ans, là c'est la force de l'âge, c'est fantastique, à nous deux le monde. Hein, voilà, je me réalise, je m'assume, je veux m'affirmer. Surestimation de soi, orgueil normalement développé, qui s'accroît, voyez-vous, hein, comme ça. Autoritarisme, absence d'autocritique, impossibilité de remettre en cause ses jugements, ses raisonnements. Ou je m'enferme dans mon moi qui s'affirme orgueilleusement contre tout le reste, ou je rentre dans l'humilité, le chemin de la descente, le chemin de la pauvreté, le chemin de l'abaissement, pour me laisser remettre en cause par le Christ, pour me laisser challenger, comme on dirait aujourd'hui, par le Christ, hein, défier par le Christ, pour me laisser bouleverser par le Christ, me faire renverser comme une crêpe par le Christ. C'est-à-dire ne pas m'enfermer dans une estime de moi, mais savoir que je suis rien et que sans Dieu je ne peux rien faire. Ne pas me laisser emporter par l'orgueil, mais avoir la conscience de ma misère et de mon état de pauvre pécheur. Oser remettre en cause mes jugements et mes raisonnements à la lumière de l'Évangile, à la lumière bouleversante de la pensée de l'Église, et non pas à la lumière de mon petite luciole de ma propre intelligence. De rentrer véritablement dans l'amour oblatif et non pas dans l'amour possessif qui me renferme sur moi. C'est très frappant de voir cette alternative qui nous est donnée entre métanoïa ou paranoïa. Paranoïa. Il y a un état stable entre deux, on appelle ça l'orthonoïa. C'est ceux qui sont au milieu et puis ne se posent pas trop de questions comme ça. Mais ça leur arrivera un jour, il faudra quand même se mettre au défi des vraies questions. Il y a véritablement un enjeu et on voit bien que cet enjeu, eh bien, s'il n'est pas saisi, si l'homme n'est pas métanoïé, s'il n'est pas converti, n'est pas renversé, eh bien, il va s'endurcir dans une attitude qui finalement peut conduire à une pathologie. Et par du hasard, vous voyez déjà que cet endurcissement conduisait à des troubles de la personnalité graves qu'aujourd'hui les psychiatres, avec les développements de la science, qualifient de pathologie. Tous ne font pas des crises, disent les psychiatres, mais certains rêvent à des crises violentes et nécessitent un internement à un moment donné. Devant cette crispation, cette cristallisation de la personnalité qui refuse de se laisser renverser, de se laisser bouleverser par la grâce de Dieu et qui finalement s'enferme dans une manière de vivre qui n'est pas illuminée et liquéfiée par l'Évangile. L'Évangile va commencer à liquéfier notre cœur, adoucir notre cœur, à nous rendre souples à un moment où le corps l'est un petit peu moins parce qu'il y a quelques problèmes de souplesse physique avec l'âge. Bon, le corps n'est plus aussi souple qu'il ne l'était dans la jeunesse. L'âme devient de plus en plus souple. Et la sainteté, justement, cette souplesse de l'âme qui devrait atteindre sa perfection au soir de notre vie, au matin de la vie nouvelle. Comment pouvoir vivre cette métanoïa? Il y a deux points que les pères du désert nous donnaient. Deux éléments, il y en a plusieurs peut-être, mais deux en tout cas qui était vraiment en évidence. Le premier élément, c'était la vigilance. Jésus nous dit « Veillez et priez pour ne pas rentrer en tentation ». Le deuxième moment où le Christ sera tenté par le démon, assailli par le démon, ce sera Gethsémani, « Veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est ardent ». Cette attitude de la vigilance, qui ne consiste pas à ne pas dormir, c'est pas ça, mais qui est une attention à soi-même, et une attention à Dieu sans relâche. On revient à cette vieille pensée de saint Augustin, et vigilant celui qui se connaît lui-même et qui connaît Dieu. Saint Augustin disait en latin « Noverim me, noverim te, oratio est ». Que je me connaisse et que je te connaisse, toute la prière est là. Eh bien la vigilance, c'est cette attention permanente à ce que l'on vit. Saint Paul dira aux Thessaloniciens « Vous êtes des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés, vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous sommes du jour. Soyons sobres et vigilants. » Et il disait encore à Timothée, « Pour toi, sois prudent. » Chez saint Pierre, on retrouve cette phrase aussi, « Saignez les reins de votre esprit, soyez vigilants. » La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et vigilants en vue de la prière. Soyez sobres, vigilants, votre adversaire le diable comme un lion rugissant rôde autour de vous cherchant à dévorer sa proie. Donc dans tous ces textes, il y a ce mot vigilance qui revient, qui montre bien que c'est au cœur du combat que se vit la question de la vigilance. Et les pères du désert disaient, cette vigilance consiste à être comme un athlète de Dieu. Dans la vie de saint Pacôme, on nous dit « Son cœur est aussi vigilant qu'une porte de bronze solidement défendue contre les brigands. » Porte de bronze, le porte de bronzo. Vous savez, au Vatican, c'est les gardes suisses qui gardent le porte de bronzo. Mais je crois que la porte fermée est plus efficace que les gardes suisses quand la porte est ouverte. Parce que pour défoncer cette porte-là, il faut y aller. Hein. Avec même plusieurs béliers, on n'y arriverait pas. Voilà, donc la porte est suffisamment lourde et solide pour empêcher toute intrusion de personnes non admises dans le palais apostolique, sans qu'il y ait des gardes même à la porte. Pour les pères du désert, la vigilance, c'est cette attitude comme une porte de bronze qui est capable de résister aux assauts. Un autre abbé, l'abbé Poenen, « Nous n'avons besoin de rien d'autre que d'un esprit vigilant. Veillez en toute vigilance, soit que vous soyez assis dans votre cellule, soit que vous soyez au milieu des hommes. » Cette vigilance va nous mettre attentifs à la présence du Seigneur. S'il n'y a pas cette vigilance, il y a une tristesse qui va commencer à envahir le cœur. Le fruit contraire de la vigilance, c'est la tristesse. Cette espèce d'envahissement des soucis du monde, des problèmes du monde. Les pères du désert disaient « La vigilance est une méthode spirituelle débarrassant totalement l'homme, avec la grâce de Dieu, des pensées et des paroles entachées de passions et des actions mauvaises, à condition qu'on mène le combat jusqu'au bout, comme ça. » Il y a une sorte de garde du cœur qui se fait par cette vigilance. C'est à la fois un repos en Dieu, une garde du cœur, une garde des pensées, et en même temps une persévérance qui va jusqu'au bout. La conclusion de toute cette étude sur la vigilance était « Celui-là est un vrai moine qui mène à bien la vigilance. Celui-là est vraiment vigilant qui est moine dans son cœur. » Donc il y a le moine dans son monastère qui doit veiller toute la journée. Et puis dans le monde, celui qui est vigilant, il devient moine. Parce que son cœur devient une sorte de tabernacle, de chapelle secrète où Dieu habite. Et veillant sur ses pensées, veillant sur cette intimité avec Dieu, étant attentif aux gestes qu'il pose pour voir s'ils sont ordonnés ou non à l'évangile, s'ils sont ordonnés ou non à la vérité de Dieu, s'ils sont ordonnés ou non au bien et à l'amour, cette attention constante, cette vigilance constante aux actes que je pose, aux pensées que j'ai, pour voir si elles sont dans le sens de Dieu ou contre Dieu, si elles sont repliées dans un amour possessif ou narcissique, ou alors livrées dans un amour oblatif. Cette vigilance constante qui est là va me permettre de faire de mon cœur un temple, le temple du Seigneur. C'était donc la prière des moines. Supplie donc Dieu de te donner un esprit vigilant. Supplie Dieu de te donner un esprit vigilant. Le contraire de la vigilance, c'est la torpeur. Ça va être la paresse, ça va être l'endormissement. La vigilance, c'est celui qui est quand même attentif. L'endormissement est le contraire de la vigilance. Et cet endormissement me fait passer à côté de l'enseignement de Dieu, à côté des leçons que Dieu me donne jour après jour, et me fait perdre un temps fou dans la croissance spirituelle. Je n'avance pas dans la vie spirituelle dès l'instant où je vis dans l'endormissement perpétuel. Si je ne suis pas vigilant à mes pensées, à mes actes, à la présence de Dieu, aux petits signes qu'il me fait, à toutes les délicatesses, Dieu n'arrête pas de nous parler, vous savez. À longueur de journée, Dieu nous parle. Sans arrêt, Dieu nous parle. Il cesse de nous faire des petits signes, des petites choses. Alors parfois c'est un petit peu gros, il y a des signes qui sont assez gros. Un ami qui était parti en voyage récemment, je lui avais dit « Mais écoute, je ne suis pas sûr que tu dois aller dans cette direction, tu dois aller dans une autre direction dans ton voyage, parce qu'il y avait un devoir d'État quand même qui l'attendait assez important. » Il m'a dit « Ouais, mais quand même. » Après il m'a dit « Ouais, bon d'accord, je vais réfléchir. » Puis il est parti dans l'autre direction. Et deux jours après, j'avais un mail, il me dit « Écoute, je me suis cassé le bras, puis déchiré les ligaments, je vais donc prendre le billet d'avion pour partir dans l'autre direction que tu m'avais indiqué auparavant. Dieu a parlé, merci Seigneur, c'est au moins clair cette fois-ci. » Alors il a traversé l'Atlantique et le Pacifique pour aller au bon endroit. Des petits signes du Seigneur comme ça, qui des gros signes quand même. Mais parfois, ça peut être plus subtil, plus simple. Une petite parole qui est dite, dans la mesure où on est vigilant, nécessairement ces petites paroles vont immédiatement percuter, comme on dit, et immédiatement provoquer une réaction de ma part. Mais si je ne suis pas vigilant, alors je vais passer à travers la vie en passant à côté de tous les signes que Dieu va me faire, et je vais continuer avec les mêmes erreurs, les mêmes péchés, les mêmes attitudes, sans jamais rentrer dans cette possibilité d'une métanoïa, d'une conversion authentique. Les obstacles à cette vigilance, c'est le mensonge, le refus de la vérité sur sa vie, le refus de la vérité sur Dieu. C'est parfois la rancune, ce murmure qui habite le cœur et qui empêche véritablement de laisser Dieu être Dieu en nous. La mauvaise habitude qui a été prise. Particulièrement, disent les pères de l'Église, la vigilance s'impose dans la prière. Nous devons chanter avec attention, avec vigilance, et appliquer notre esprit à la signification des paroles. Et ça, c'est vrai, voyez-vous, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des gens, des fois, ça leur arrive, quand ils arrivent à la prière ou à la messe, ils mettent « off ». Vous savez, des fois, il y a « on » et « off ». Alors ils arrivent, ils mettent « off ». Et puis du coup, la messe se passe, et un coup, il y a déjà eu l'évangile ?» Il me semble qu'on s'est déjà levé et puis assis. Qu'est-ce qu'il a dit ? Faut-il a parlé du bon Dieu, je crois, vraiment. Ces petits gamins qui rentraient de l'église, sa mère, pour vérifier s'il avait à la messe, dit « Alors, le sermon, c'était bien ?»« Oui, c'était bien. » Puis qu'est-ce qu'il a dit, le curé ? Il a parlé du péché. Et qu'est-ce qu'il a dit, plus précisément ? Oh, il était plutôt contre, tu sais. Alors, quelle vigilance j'ai dans la prière ? Quelle vigilance j'ai dans la liturgie ? Le Père disait donc cette vigilance dans l'attention à la liturgie, dans les petites choses, aux paroles qui vont être pédagogie aussi pour moi. L'oraison qu'on a lue tout à l'heure, elle est pédagogique. Elle nous reparlait de ces trois démarches, de la prière, de l'aumône et du jeûne. Elle nous parlait de notre incapacité. C'est bien, on a voulu faire ça, mais on n'a pas très bien réussi. Donc on va compter sur toi, Seigneur, et redonne-nous de repartir dans ce temps de carême avec une nouvelle détermination, comme ça. Voilà. On doit s'examiner aussi comment on a passé la journée, la nuit. Avons-nous été attentifs à la psalmodie et à la prière ? L'idée principale, c'est que je dorme et mon cœur veille. Cette vigilance va s'appliquer dans la sobriété du langage, dans la sobriété des gestes. Elle relève d'une certaine ascèse. L'ascèse, voyez-vous, c'est ce qui libère l'homme pour Dieu. Des fois, on voyait les gens qui se flagellaient, qui se mettaient des cilices. Oui, c'était des démarches d'ascèse, mais c'est pas l'ascèse qui fait le saint, disait le Père Cantal à la Messa, mais on ne devient pas saint sans ascèse, voyez-vous. L'ascèse est une privation de tout ce qui empêche Dieu d'être Dieu dans notre vie. C'est une sorte de mouvement d'exercice que je vais faire pour permettre le triomphe du Seigneur dans nos vies et laisser le royaume de cieux s'installer à la place de tout ce qui aurait pris sa place justement en moi et qui peut être tous les biens de ce monde, quels qu'ils soient. Et le plus grand et le plus difficile, c'est encore le moi qui aurait pris la place du bon Dieu en moi. La vigilance est quelque chose d'extrêmement important. La vigilance contre les pensées aide à fixer son attention sur le Seigneur. L'âme qui a goûté un grand nombre de fois à l'amertume du péché et à la douceur de la grâce en deviendra plus réceptive et attentive à fuir entièrement le mal et s'attacher totalement au Seigneur. Première attitude, la vigilance. Rattachée à l'attitude, mais avec une nuance différente, ça va être l'attention. L'attention, la vigilance est cet état de présence à la présence, on pourrait dire, hein, l'état d'être présent à tout ce qui suit. Quand je suis au sommeil, je suis présent à mon sommeil, je dors. Mais quand je suis éveillé, je suis présent à chaque instant présent. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps de 5 ou 6 médecins psychiatres. Le titre du livre, c'est « Quand le présent devient présence ». Et il montrait comment un grand nombre de pathologies, notamment des névroses et même parfois des psychoses, étaient guéries par une reprise de conscience de la réalité présente. On a vu le docteur Vitos qui avait fait ça déjà dans la question matérielle. Je prends conscience de chaque geste que je pose, je prends conscience que ça c'est du fer, que je le touche, qu'il y a une certaine température, de se remettre dans l'instant présent. On est telle fois tellement pris dans nos pensées, dans nos soucis, dans nos rêves, dans nos idées, dans notre imagination, dans notre souvenir, culpabilisé, déculpabilisé, surculpabilisé ou je ne sais pas quoi, que finalement on oublie de vivre l'instant présent. Il n'y a qu'un lieu de la grâce, c'est la douche de l'instant présent. Je racontais ça un jour à des chefs d'entreprise en France. Quelques temps plus tard, un homme qui a des hautes fonctions en France, qui a des hautes fonctions et assez connu, était là à cette conférence et il se trouve qu'il prenait juste sa retraite d'une de ses fonctions. Et puis il avait plus de temps, il se réjouissait de pouvoir vivre un peu plus intensément ses temps avec son épouse. Et je crois un mois après la retraite, en sortant de leur maison, sa femme se fait heurter par une voiture et meurt sur la route devant lui comme ça. Et il a dit « c'était vraiment pour moi le drame de ma vie ». On le comprend, hein, c'était tellement... Tout était là dans l'espoir de pouvoir enfin partager plus de temps. Il était tellement pris auparavant qu'ils avaient peu de temps pour partager des moments d'intimité ou faire des choses ensemble. Et là, il se dit, voilà, enfin, le moment est arrivé et paf, elle disparaît. Et il dit, j'étais dans une tristesse, mais quasiment morbide, avec que des pensées de mort, tous les souvenirs de ce qu'on avait vécu ensemble ou mal vécu ensemble, tous les désirs que j'avais de pouvoir faire quelque chose avec elle qui ne se réaliserait plus. Et un jour, dit-il, j'étais sous ma douche, mais accablé par la tristesse. Et tout d'un coup, j'ai pensé à ce que vous me disiez. C'est qu'il faut vivre dans la douche de l'instant présent. C'est le seul endroit où il faut vivre. Sous ma douche, la douche de l'instant présent. Et à ce moment-là, quand je me suis dit, attends, c'est maintenant, je suis là, aujourd'hui. C'est plus le passé, c'est pas l'avenir, c'est aujourd'hui qu'il faut que je vive. Il m'a dit, une parole est venue à mon esprit immédiatement. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et il m'a dit, vous savez, c'était le tournant de ma vie, sous la douche. En passant à la touche de l'instant présent, le tournant de ma vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ma femme n'était plus un souvenir dans ma tête, elle était vivante ailleurs. Et tout le chemin que je devais faire, c'était rentrer à la présence de ma femme, sur un autre mode de vie, qui était celui de la vie éternelle, bien sûr, mais qui était plus réaliste et plus fécond que le souvenir dans lequel j'étais, ou l'espoir des temps que j'aurais pu passer avec elle si elle était restée sur cette terre. Une année et demie après, je l'ai vu, il m'a raconté ça lumineux. C'était la délivrance, pas de sa souffrance peut-être pas, mais en tout cas de cet enfermement dans lequel il est en train de se mettre en raison de son retour sur le passé ou de sa projection dans l'avenir et son refus de vivre l'instant présent. L'attention aura une autre nuance que cette vigilance de l'instant présent, c'est dans l'instant présent, regarder les choses tendre vers, ad tendere, tendre vers chaque événement, chaque circonstance. C'est le contraire de la distraction, l'attention. La distraction me tire loin d'eux, des événements, des circonstances et des choses. L'attention me fixe sur chacune des choses. Un épisode dans le livre de Jérémie, où Dieu dit à Jérémie, « Que vois-tu, Jérémie ?»« Je vois une branche d'amandier. » Et le bon Dieu lui dit, « Tu as bien vu, dit le Seigneur, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » L'amandier, premier arbre en fleur, s'appelle en hébreu le vigilant. Il fixe son attention, Dieu lui dit, « Mais que vois-tu ? Je vois une branche d'amandier. » Ce cher Jérémie fixe son attention sur la branche d'amandier, qui est justement le vigilant, parce que c'est le premier arbre en fleur, le premier qui s'éveille au printemps. En grec, l'attention se dit la prosoké. Les pères du désert faisaient un jeu de mots entre la prière qui se dit en grec prosoike et prosoké. Alors ils disaient, la prosoké, l'attention, conduit à la prosoike, à la prière. Prosoké, prosoike. Si je suis tout le temps attentif, eh bien je serai tout le temps en prière, parce que je verrai dans une attention perpétuelle deux choses. La réalité telle qu'elle est, le réalisme de la réalité telle qu'elle est, et en même temps, l'autre réalité que je ne vois pas avec mes sens, que je ne saisis pas avec mes sens, mais que je saisis plus sûrement encore avec ma foi, mon espérance et ma charité, qui est la présence de Dieu dans chacun des événements. Cette attention permet à la fois de toucher chacune des réalités que je côtoie, qui font le quotidien de ma vie, et en même temps de voir surgir dans ce quotidien la présence même de Dieu qui transfigure toute chose. Il y a un refus parfois de vivre ça, vous savez. André Gide disait « Petit et grand, jeune et vieux, j'ai constamment vécu le plus loin possible de moi-même. Loin de chercher à me connaître, je me suis toujours efforcé de m'ignorer. Je tiens la connaissance de soi-même pour une source de soucis, d'inquiétudes et de tourments. Je me suis fréquenté le moins possible. J'ai toujours su me distraire, ce fut tout mon art de vivre. » Éviter de se connaître dans sa réalité, éviter d'être attentif à mon instant présent, c'est quelque part fuir Dieu aussi. L'attention, disent les pères, est à l'homme ce que l'instinct est à l'animal. Cet effort d'intelligence et de volonté appliqué à l'instant présent permet à l'homme de saisir chacune des choses comme l'instinct de l'animal. Vous avez un chat qui voit une souris, je peux dire qu'il est attentif. Et ça, c'est instinctif. Chez l'homme, c'est par un effort de volonté et d'intelligence qu'il va fixer son intelligence et sa volonté sur cet événement, cet objet, cette situation. Chez le chat, il voit la souris, c'est comme ça que ça se passe. Et Père de l'Église dit justement que regardez le chasseur, il doit être attentif, regardez l'architecte, il veille à faire des bonnes fondations, le laboureur veille à bêcher correctement autour de son figuier, le soldat à revêtir correctement son armure, parce que s'il la revêt mal, il y a des conséquences après. Vous lui gênez de partir au combat, puis il y a l'armure qui tombe quand il est devant l'ennemi comme ça, avec les jambes coincées, c'est pas le moment le plus agréable pour se défendre. Donc il est vigilant, il est attentif à s'habiller correctement. Toi aussi, sois attentif à toi-même pour être attentif à Dieu. Le contraire de l'attention, c'est la dissipation, c'est le refus ou la négligence dans la lutte contre les passions. Certains ont appelé l'attention garde de l'intelligence, garde du cœur, sobriété, repos spirituel. Tous ces mots désignent la même chose. Les habitudes d'inattention et de légèreté contribuent à engendrer une multitude de vices. C'est à elles qu'il faut rapporter même en grande partie la dureté apparente du cœur, les passions personnelles et antisociales. Si, puisse maître de notre attention, nous savions l'arrêter sur les maux d'autrui, combien nous frémirions à la seule idée d'en être la cause. Comme nous sentirions mieux le besoin de les soulager ou de les prévenir. Ainsi pourrait se développer une sensibilité vraiment morale, à savoir celle qui naît de l'exercice même de nos facultés actives et de nos jugements, au lieu de les former et d'en être le principe. L'attention va rendre charitable aussi. C'est une dame qui m'a raconté ça il y a quelque temps en arrière. Elle était enceinte. Et sa voisine voit qu'elle avait pris un ventre déjà avec certaines formes comme ça. « Ah, vous attendez un petit bébé ?» Oui, oui. Alors n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un service. Hein. Si vous portez le baquet à linge, alors dites-le-moi, elle est au 5e étage de l'immeuble, il n'y a pas d'ascenseur. Ah ben, elle dit « Très gentil, merci beaucoup alors. » Le lendemain, elle se trouve à l'entrée de l'immeuble avec deux gros sacs de commission. Et elle croise cette même dame qui est là. « Ah bonjour, vous allez bien ? Alors ça se passe bien la grossesse, oui ?» Et elle, avec ses deux gros sacs de commission qui montaient 5 étages, c'était pas un bac à linge, qu'est-ce que vous voulez? Et arrive en haut, la dame lui dit, ah, je peux vous aider à ouvrir la porte, peut-être? Alors qu'elle portait, elle, pendant tous les étages, ses deux gros sacs de commission. Il n'y avait pas eu la tension de dire, tiens, mais bac à linge, ça peut être aussi cabas de nourriture. Tiens, dès l'instant où on est attentif, on va être attentif aux besoins de l'autre. On a une petite règle chez nous, c'est que normalement, à table, on se passe les plats, la nourriture, sans qu'on ait besoin de demander. Des fois, on a besoin de demander quand même. C'est parce qu'on n'a peut-être pas été assez attentif aux autres. Le fait de ne pas être attentif, de ne pas voir, doit nous secouer, nous réveiller. en nous disant, attends, où est-ce que tu en es? Tu es sur quelle planète là? Sur quelle orbite? Dans quel film intérieur? Donc l'attention va être le cœur ou le complément, si vous voulez, de la vigilance. La vigilance concerne cette présence au présent, l'attention va être cette application de mon intelligence et de ma volonté, de mon regard. L'attention va toucher à la fois le regard physique, voir les choses. Benoît XVI a cette phrase bouleversante dans son encyclique sur la charité, Deus Caritas Est, où il dit « Le modèle de la charité chrétienne, c'est finalement la règle du bon samaritain. » Et le chrétien est un cœur qui voit. Le chrétien est un cœur qui voit. Ben, ça dit toute l'attention, c'est ça. Le chrétien est un cœur qui voit. Il n'y aura pas de charité, il n'y aura pas d'amour si nous ne sommes pas des cœurs qui voyons. Un cœur qui voit, un cœur qui saisit le besoin, le trouble, la difficulté. On voit ça chez les saints, le moindre regard, le moindre voile de tristesse chez des gens qui sont attentifs. Ils sont capables de discerner le moindre mouvement, le moindre signe dans le visage de l'autre qui fait dire « Oh, attention, là il y a quelque chose qui se passe, attention. Quel besoin, quel souci, quelle joie, quelle libération. » Cette attention permanente qui permet de vivre les choses comme ça. Le danger, si nous ne sommes pas vigilants et attentifs, c'est que nous tombons dans une maladie très 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 grave. La maladie très grave dans laquelle nous risquons de tomber, elle s'appelle l'acédie. Alors, je n'ai jamais vu ce que c'est que l'acédie, les acédiaques ou les acédiastes. Ces deux possibilités qui sont là. L'acédie est une négligence, une indifférence, un manque de soin ou d'intérêt pour les choses. Elle est aussi une sorte de torpeur, d'une paresse, d'une oisiveté. Plus qu'une paresse, elle est une tristesse d'abord, l'acédie. De la tristesse va jaillir une paresse. C'est la perte du sens, la perte de la motivation, la perte de la perspective de la vie éternelle, la perte de ce qui est important. Il y a un psychiatre qui s'appelle Viktor Frankl, peut-être que vous entendez parler de lui, qui a fondé une école de thérapie qui s'appelle la logothérapie, qui avant la guerre s'était battu avec Freud et avec Adler en disant le problème de l'homme, c'est pas seulement son problème de la sexualité ou son problème de son complexe d'infériorité, c'est plus profond que ça le problème de l'homme. Si l'homme doit compenser dans une sexualité débridée les désirs de son cœur, c'est parce qu'il n'a pas de sens à sa vie. Et donc, vous êtes alors en périphérie du problème si vous abordez la question sous l'angle simplement de la frustration sexuelle ou de complexe d'infériorité. Il s'est foutu dehors de l'Académie de la Société des psychiatres par Adler, qui était président parce qu'il a critiqué sa théorie. Mais enfin, c'est lui qui avait raison en disant le vrai problème, c'est le sens de la vie, voyez-vous. Dès l'instant où on a un sens à la vie, les choses se transfigurent. Il a eu l'occasion de tester sa théorie ou sa thérapie en camp de concentration, puisqu'il a passé 3 ans dans différents camps de concentration, commençant par Auschwitz. Il était juif lui-même. Il s'est rendu compte qu'il y avait 2 types de personnes dans les camps de concentration. Ceux qui désespéraient et qui se laissaient complètement aller, et ceux qui s'accrochaient envers et contre tout à la vie. Et que ceux qui s'accrochaient envers et contre tout à la vie, c'est ceux qui avaient un sens à la vie, quel qu'il soit. Pour lui, c'était de retrouver sa femme à la sortie. Sa femme qui était décédée d'épuisement dans un autre camp de concentration quand elle est sortie. C'était donc pour lui une autre dimension qui allait prendre sens dans sa vie, la dimension transcendante, l'amour, l'accomplissement. Il disait, voyez-vous, dès l'instant où on trouve le sens de notre vie, il y a une joie véritable qui envahit notre cœur. L'acédie, c'est justement la perte de ce sens, la perte de la perspective, une sorte de torpeur qui envahit l'âme, de tristesse qui envahit l'âme. Elle rentre tout doucement, sans qu'on s'en rende compte. C'est souvent les autres qui se rendent compte qu'on est devenu acédiaque. On se réveille un matin acédiaque. C'est tout à fait particulier, rongé par cette terrible maladie qui est la plus dangereuse dans les maladies spirituelles. On l'a rangé parfois sous l'angle de la paresse dans les 7 péchés capitaux. Dans les traditions monastiques, on dit que c'est un 8e péché capital. On garde la paresse comme étant quand même un des péchés capitaux. Mais cette tristesse de l'âme, cette acédie, est vraiment une maladie grave de l'âme, de l'être humain. Si on regarde un petit peu plus avant ce que les pères nous disent sur l'acédie, je vous cite quelques descriptions qu'ils font du moine acédiaque. Toute ressemblance avec les personnages existants ou ayant existé purement fortuite est le fruit d'une perspicacité extraordinaire. Le démon de l'acédie, qui est appelé aussi démon de midi, est le plus pesant de tous. Comment ça se passe chez la personne qui vit ça? D'abord, le soleil paraît lent à se mouvoir ou immobile, et le jour semble avoir 50 heures. Il y en a 24 habituellement, hein. Le jour semble avoir 50 heures. Ensuite, ce démon force le moine à avoir les yeux continuellement fixés sur les fenêtres, à bondir hors de sa cellule, à observer le soleil pour voir s'il est loin de la 9e heure et à regarder de ci, de là. En outre, il lui inspire de l'aversion pour le lieu où il est, pour son état de vie. même pour le travail manuel. Et de plus, l'idée de la charité a disparu chez les frères, qu'il n'y a plus personne pour le consoler. Et qu'il se trouve quelqu'un qui, dans ces jours-là, ait contristé le moine, le démon se sert aussi de cela pour accroître son aversion. Il l'amène alors à désirer d'être dans d'autres lieux, où il pourra trouver facilement ce dont il a besoin, exercer un métier moins pénible et qui rapporte peut-être davantage. Il ajoute que plaire au Seigneur n'est pas une affaire de lieu, partout en effet la divinité peut être adorée. Il joint à cela le souvenir de ses proches, de ses parents, son existence d'autrefois, des histoires du passé. Il lui représente combien est longue la durée de vie, mettant devant les yeux les fatigues de l'ascèse. Et comme on dit, il dresse toutes ses batteries pour que le moine abandonne sa cellule et fuit le stade du combat. Ce démon n'est suivi immédiatement d'aucun autre. Il suffit à lui-même à se battre. L'ascédie est une sorte d'atonie de l'âme. L'ascédiaste prétexte les visites aux malades. En fait, il satisfait son propre désir. Il est prompt service, mais il pense que sa propre satisfaction fait loi. Un souffle léger fait pencher une plante. L'évasion en pensée entraîne l'ascédiaste. L'ascédiaste, quand il lit, il bâille beaucoup. Il est emporté facilement par sommeil, il se frotte les yeux, étire les mains, détournant les yeux du livre, il fixe le mur, puis revient, compte les pages, les dénombre, trouve la graphie mauvaise, ainsi que la décoration. Plus tard, il courbe la tête, place le livre sous elle et s'endort d'un sommeil profond, jusqu'à ce que la faim vienne le réveiller et qu'il vaque à ses besoins. Cette description s'applique aux moines, mais on peut retrouver certaines parallèles avec la vie du monde actif. Le moine ascédiaste est paresseux pour prier, il ne prononce jamais les paroles de la prière ou alors à moitié. De même qu'un malade ne porte pas de lourdes charges, ainsi l'ascédiaste ne fait pas l'œuvre de Dieu avec soin. C'est que le premier a perdu la force corporelle et le second a relâché le ressort de son esprit. L'ascédie est une affection vague qui vous fait tourner en rond et mépriser tout entrain au travail. Elle est la tourmente de la psalmodie, la paresse dans la prière, le relâchement dans l'ascèse. C'est l'engourdissement qui vous gagne à tout moment, le sommeil qui tourne autour, la pesanteur du cafard, la haine de la cellule, le refus de tout effort, la fuite de l'instant présent. Elle contrebalance le courage, freine la contemplation, vous rend inintelligent les Écritures, va de pair avec le chagrin et obsédé par l'heure qu'il est. Alors il dit, il faut vraiment mettre en déroute le démon de l'ascédie. Comment va-t-il rentrer en nous ? Souvent le trouble intérieur, tout d'un coup s'occuper de soi-même de manière démesurée, et ne plus s'occuper de Dieu, de plus mettre sa vie en perspective de la vie éternelle, de ne plus voir que finalement, si je suis là, c'est pour plaire à Dieu. Alors je suis là pour me plaire à moi, chercher mon confort, chercher mes petites aises, tellement troublé par le moi que finalement le lui a perdu l'importance dans ma vie et n'est plus le désir premier de mon cœur. J'ai plus le désir de servir le Seigneur. L'ennui, l'ascédie naît par l'ennui ou l'amertume excessive de l'âme, par lesquels la joie spirituelle est éteinte, et comme par un début de désespoir, l'âme est abattue sur elle-même, elle n'arrête pas de se retourner sur elle-même. C'est l'ingratitude aussi qui crée l'ascédie, le fait de ne plus dire merci au Seigneur, de ne plus rendre grâce. Rendre grâce, c'est l'eucharistia, c'est l'action de grâce. L'ingratitude, c'est l'acharistia, le refus de rendre grâce. C'est la philanthropos, le contrat de philanthropos. La philanthropos, le refus de voir en Dieu celui qui aime l'homme. Dieu m'aime plus, je ne sais pas où il est perdu sur son nuage, il est occupé ailleurs. Oui, il ne veut pas s'occuper de mes petits détails de ma vie, il a autre chose à faire, le bon Dieu. Il m'a laissé à ma liberté, j'ai le droit de faire ce que je veux quand même, hein. Le bon Dieu m'a laissé libre, alors je fais ce que je veux. Et puis de toute façon, il a assez d'autres gens à s'occuper, il s'occupait de moi maintenant, je vais le laisser tranquille, quelques temps comme ça. C'est la paraclétos, vous savez, le paraclé, c'est le consolateur. C'est la non-consolation. Je n'ai plus cette consolation de la tendresse de Dieu qui est dans ma vie. L'ascédie conduit à l'acharistia, à la philanthropos, à la paraclétos. La privation de toutes les grâces, de l'amour de Dieu, de la consolation de Dieu et de l'action de grâce qui vient dans notre cœur. Le murmure aussi. Cette critique que l'on fait, non pas tant contre Dieu directement, mais contre toutes les circonstances de la vie. Il y a tel problème, il y a tel souci. Peu importe, il fait nouveau froid, c'est pas possible, nouveau, faut gratter les vitres nouveau ce matin, oh là là, bientôt fini l'hiver. C'est rouspéter contre Dieu. Ça n'a pas l'air. On rouspète contre le gel, le froid, mais finalement on rouspète contre Dieu. Ce murmure qui habite l'âme conduit nécessairement et inéluctablement à l'ascédie, à la tristesse spirituelle, parce que je ne vois plus en Dieu celui qui m'aime en tout. Je suis dans la philanthropie, la philanthropose, et du coup, je meurs de murmurer contre des événements extérieurs, mais qui est en fait un refus de laisser Dieu être Dieu dans ma vie. Une des autres causes de l'ascédie, c'est le scrupule. Vous savez, il y a une juste culpabilité, qui consiste à se reconnaître pécheur et à voir qu'on a fait des péchés. Et puis à se jeter immédiatement dans la miséricorde de Dieu et d'accueillir son pardon. Et puis il y a une fausse culpabilité, qui est le scrupule, qui est celui de se vouloir soi-même parfait. Et donc de voir nos imperfections et de s'en vouloir, de vouloir réussir par nous-mêmes et de ne pas réussir. Et tout ça finalement, c'est encore un refus de laisser Dieu être Dieu, c'est encore un refus de voir la seigneurie de Dieu dans notre vie. Il peut y avoir aussi parfois le climat. En hiver, quand il faut se battre, il fait froid, ben, on fait un effort physique comme ça. En été, quand il fait chaud, le corps se laisse aller, l'esprit se laisse aller, on a 1000 transats, on est là à se dorer la pilule, et puis en même temps, eh bien, le corps qui se larve, larve aussi l'esprit. Tout ça reste en tas de léthargie sous le soleil physique extérieur, qui empêche ce sursaut de l'âme pour véritablement vivre de la joie du Seigneur. Comment remédier à la cédille? Notamment la prière, et remettre notre vie en perspective de la vie éternelle, des fins dernières. Je suis là pourquoi sur cette terre? Saint Ignace de Loyola, quand ses frères tombaient dans la cédille, il leur disait, bon, dans le doute ou le scrupule ou comme ça, il disait, bon, dans 6 mois vous mourrez, qu'est-ce que vous voulez faire d'ici là? Ça ressaisissait un petit peu les consciences, voyez? Et puis, oulala, attends, c'est vrai, il faudrait penser peut-être à quelque chose, hein? Et ceux qui étaient en paix avec Dieu, avec les autres, comme Louis de Gonzague, quand il disait, si tu savais que le Christ revenait dans une demi-heure ou si tu mourais dans une demi-heure, qu'est-ce que tu ferais dans la demi-heure qui reste? Alors, certains avaient dit, j'irai vite me confesser, d'autres disaient, j'irai devant le tabernacle pour prier le bon Dieu, d'autres demanderaient la grâce de me convertir quand même une fois. Et Louis de Gonzague disait, moi je continuais la récréation parce que c'est ce que je dois faire maintenant dans l'obéissance. Je continuais la récréation parce que c'est ce que je dois faire maintenant dans l'obéissance. Ça c'est aussi un remède, voyez-vous, contre la cédille. C'est de faire notre devoir d'État avec précision et justesse, comme Dieu le demande. Pour le moine, c'est la stabilité de sa cellule, c'est la stabilité de son lieu. Pour le fidèle laïc, c'est la stabilité du devoir d'État, c'est la stabilité de la persévérance jusqu'au bout dans ce que j'ai à faire. De ne pas s'arrêter en cours de route, de ne pas interrompre les activités, de ne pas papillonner de tous les côtés, mais de s'attacher à une tâche et de l'accomplir jusqu'au bout. Ça, c'est très important pour lutter contre la cédille, parce que le moine ascédiaque est celui qui commence tout et qui finit rien. Il ne va pas jusqu'au bout des choses. Parce qu'il n'a plus le sens d'une perspective de la fin, alors il n'est pas capable aussi, dans son devoir d'État, d'avoir le sens de la perspective et de la fin. Il y a aussi une juste détente qui est nécessaire. La tension trop grande peut conduire à une perte d'énergie, à une sorte de torpeur, de rupture physique qui fait que tout d'un coup, l'esprit suit aussi cette torpeur et cette rupture. Ce qui va être extrêmement déterminant dans la vie aussi de la lutte contre la cédille, eh bien, c'est la charité. Le fait d'aimer les autres, le fait de les servir, le fait de se livrer, de se donner, est sans doute la guérison ou le remède le plus efficace contre la cédille. Benoît XVI dit dans son livre, son encyclique sur la charité aussi, quand on regarde Mère Teresa, on comprend ce que ça veut dire la charité. La contemplation du Christ au Saint-Sacrement nous pousse à le reconnaître sous le visage des plus pauvres et donc à le servir avec zèle et persévérance. Le service des plus pauvres nous pousse, nous presse à se précipiter au pied du tabernacle pour recevoir la force. Donc il y a une sorte de pression réciproque entre l'intimité avec le Christ dans la prière et le service des autres dans la charité qui joue comme stimulant réciproque, comme propulseur réciproque dans l'attitude complémentaire. L'amour de Dieu, celui que j'ai contemplé au Saint-Sacrement, me presse à le reconnaître sous le visage du plus pauvre et le fait de m'être donné au plus pauvre et de m'être livré, d'avoir souffert et d'avoir donné pas quelque chose de moi mais moi-même, aux plus pauvres, me presse à aller faire le plein et me retrouver devant le Seigneur pour me laisser remplir par lui et me laisser apaiser par lui. Le combat du désert dans lequel nous rentrons, c'est celui-ci, de rentrer dans cette authentique métanoïa, cette conversion profonde, qui n'est pas un retour en arrière sur un chemin de traverse, mais une prise de conscience par la foi que le Christ est là et que ça modifie et ça transfigure complètement ma manière de penser, de voir les choses, de réfléchir et de saisir les réalités, que pour cela il va falloir être vigilant et attentif. Il va falloir éviter aussi la maladie de la cédille pour pouvoir rentrer véritablement dans cette présence au présent, dans cette joie de l'amour de Dieu. Et là, on arrivera alors à Pâques et au ciel, puisque ce sont les deux moments, dans une véritable action de grâce, Eucharistia, dans une véritable Eucharistie. On aura compris, on aura fait notre Pâques, voyez-vous. La Pâques, c'est le passage, enfin en hébreu, c'est le passage. Saint Augustin nous dit, quel est le passage que Dieu veut nous faire faire? Il reprend l'évangile de Saint Jean et il dit, le Christ, avant de passer de ce monde à son Père, il prit du pain. Avant de passer de ce monde à son Père, il leur dit encore, À plusieurs reprises, cette expression vient ou elle s'applique à plusieurs circonstances du discours avant et après la scène. C'est ce passage-là qu'il nous faut faire. C'est passer du monde au Père. C'est ça la métanoïa. Passer de l'esprit du monde à l'esprit du Père. De passer de l'esprit des enfants du monde à l'esprit des enfants du Père. De passer de l'esprit de l'enfant orgueilleux, rebelle ou orphelin dans ce monde à l'esprit de l'abandon filial entre les mains du Père. Et de voir les choses, de penser les choses et de sentir les choses à la manière dont le Père les sent, les voit et les vit. C'est-à-dire être configuré à ce point au Christ, dans la puissance de l'Esprit Saint, que je peux dire en toute confiance « Abba Père » et non plus d'avoir un regard méfiant ou distant par rapport à ce Dieu qui a livré son Fils pour que j'aie la vie et la vie éternelle. Amen.